Pourquoi tu cries ? Pourquoi tu cries ? Pourquoi tu cries ? Un podcast d'Approche Culture et Territoire.
Bonjour Omar Slaouti et Olivier Lecourt, Grand Maison. On est ravis de vous accueillir dans Pourquoi tu cries ? On a décidé de vous inviter principalement par rapport au dernier ouvrage paru en 2020 aux éditions La Découverte qui s'appelle Racisme de France, racisme avec un S. Que vous avez coordonné tous les deux. Et ma première question, en fait, justement, voudrait s'attarder sur le S de ce mot racisme. Il est pluriel, il touche à la santé, il touche à l'école, il touche à la justice. C'était important pour vous d'aller dans la pluralité de ces racismes.
Bonjour, bonjour, merci pour l'invitation, tout d'abord. Oui, on revendique le S, et si on avait pu le mettre en majuscule, mais encore dans une police encore plus grosse, on l'aurait fait, parce que évidemment que les racismes se conjuguent au pluriel, ils se conjuguent au pluriel dans les espaces sociaux, comme vous venez de le décliner, c'est-à-dire que les ressorts ne sont pas obligatoirement les mêmes dans la police, justice, dans la santé, dans le monde de l'école, au travail, à une frontière quand on est migrant. Et pour reprendre globalement les différents chapitres qui sont donnés, y compris dans la presse. Mais c'est aussi un S parce que, historiquement, l'anti-tziganisme, par exemple, le racisme anti-asiatique, la négrophobie, l'islamophobie, ce ne sont pas des racismes qui peuvent simplement rentrer dans une case en tant que telle. Là aussi, les ressorts historiques, sociaux, sont totalement différents. Ils sont plus ou moins réactivés selon les périodes, sur des modes aussi d'ailleurs différents. Et on voulait absolument cette pluralité. Et une pluralité qui renvoie en plus à quelque chose qui est très important pour nous, c'est que les racismes renvoient à des antiracismes. Il n'y a aucune raison que l'antiracisme lui aussi se conjugue au singulier. Même si Olivier, moi et beaucoup de ceux et celles qui militent avec nous se revendiquent de ce qu'on appelle l'antiracisme politique, c'est-à-dire pas une approche simplement morale, même si évidemment il y a de la morale dans l'antiracisme politique, l'antiracisme politique ne se résume pas à la dimension morale. Il assume la dimension politique, la dimension systémique, structurelle des inégalités raciales. Et bien parmi ces antiracismes politiques, là aussi, et bien voilà, les stratégies peuvent être différentes. Il y a différentes organisations, structures à qui on rend un grand et bel hommage, parce que ça fait des dizaines et des dizaines d'années que des collectifs contre les violences policières jusqu'aux collectifs locaux pour construire sa propre mosquée, par exemple, ou aux collectifs contre les discriminations dans telle ou telle ville, et puis des structures un peu nationales qu'on peut retrouver comme le Front Uni Immigration Quartier Populaire, voire le MRAP, des organisations plus qui ont plus d'assises nationales comme Amnesty International, etc. Évidemment, ils ont et elles ont leur façon de vivre l'antiracisme, et il n'y a aucune raison que ce soit sous le même mode. Voilà.
Effectivement, d'une part, les racismes apparaissent dans des institutions, des lieux très différents, affectent des catégories racisées qui le sont également. Ce qui suppose, pour tenter de comprendre au mieux ces différents racismes et leurs conséquences extrêmement variées, de mobiliser des catégories politiques, juridiques, des démarches diverses. Celle-là même qui d'ailleurs, et c'est tout à fait singulier parce que la France de ce point de vue-là est une sinistre exception, celle-là même donc qui font ici, dans cet hexagone de plus en plus étriqué, problème alors que aux États-Unis, dans l'espace public, mais plus encore dans l'espace académique, en Grande-Bretagne, en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Allemagne, parler de racisme systémique est tout à fait admis, il y a des études très nombreuses. Parler de racisme d'État est également admis, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de contestation, mais il est possible d'écrire, de publier et de débattre de cela. Je pourrais aussi mentionner l'Italie où un livre est paru sur ce sujet. C'est également le cas de l'approche intersectionnelle qui est mise en œuvre aux États-Unis depuis plus de 3 décennies. À la fois dans les espaces académiques et dans les espaces politiques et militants. Et enfin, c'est le cas de l'islamophobie, dont il faut rappeler que la catégorie est utilisée par le secrétaire général de l'ONU, qu'il y a même une journée internationale contre l'islamophobie, que cette catégorie est également employée par les institutions de l'Union européenne, couramment employée là aussi dans les espaces politiques, militants et académiques d'autres pays. Il y a un seul pays qui se distingue encore une fois sinistrement, c'est la France où on est encore obligé de se justifier de recourir à ce terme et où beaucoup de responsables politiques, beaucoup d'associations, de partis politiques et d'organisations syndicales encore, certaines en tout cas, refusent d'utiliser cette catégorie. Et celles et ceux qui ont recours à ces catégories pour penser la situation, les situations auxquelles nous sommes confrontés, pour agir sur ces situations également et s'engager sur le terrain militant et citoyen, comme on dit aujourd'hui, non seulement ne sont pas entendus, mais aujourd'hui font l'objet d'une stigmatisation de plus en plus sévère et de plus en plus grave. Communautarisme d'abord, il y a de cela quelques années, maintenant séparatisme, c'est pas la même chose, c'est une aggravation de l'accusation dans la mesure où le séparatisme, et donc il faut rappeler que cette catégorie vient de l'extrême droite et qu'elle a migré jusqu'à LRM et un certain nombre de débris du Parti socialiste, est une accusation évidemment extrêmement grave parce que le séparatisme est perçu comme faisant peser une menace existentielle sur l'unité de la République, de la nation et sur un certain nombre de trésors réputés nationaux.
Ça va dans le sens d'ailleurs de ce que je voulais vous demander. Est-ce que c'est facile aujourd'hui en France de publier un tel ouvrage avec un tel titre quand on est issu du monde de la recherche, qu'on est enseignant, etc. Comment a été perçu votre ouvrage depuis qu'il est sorti en 2020 ? Dans les retours que vous avez pu avoir de votre milieu professionnel, mais aussi de la presse et plus largement du public ?
Alors, milieu professionnel, ce qui me concerne, parce que je suis enseignant à l'université, aucun retour particulier de mon proche milieu. Quelques recensions de ci, de là. Une réception, je dois l'avouer, très en deçà de ce que nous attendions. Pour des raisons, alors en partie conjoncturelles, parce qu'on n'a pas eu de chance, il y a eu l'affaire de la crise sanitaire. Mais plus fondamentalement, et je crois que c'est moins une question de crise sanitaire que de contexte politique, là aussi et là encore, d'involution politique, liée à ceci, que étant donné les démarches qui ont été la nôtre, la pluralité des approches, la volonté que nous avons eue d'allier à la fois une démarche académique, disons scientifique et citoyenne, comme on dit aujourd'hui, perturbe. Certaines et certains dans une multitude de champs. Et au fond, il n'est pas nécessaire de recourir à une censure un peu brutale, beaucoup plus efficace, et le silence qui tend à faire en sorte que, et des auteurs, et des ouvrages, qu'ils soient racisés ou non, au fond, tendent à ne pas exister.
En lien avec ce que vient de dire Olivier, je crois qu'on peut ajouter, bien évidemment en évitant tout délire complotiste, hein, on n'a pas écrit le bouquin qui allait tout changer, ça n'a strictement aucun sens. Ce qui fait changer la vie des gens, c'est d'abord et avant tout les mobilisations. Voilà. Alors après, il peut y avoir des ouvrages qui peuvent aider, quelques grilles de lecture ici et là, et d'après moi-même, ce sont plutôt des ouvrages qui s'inscrivent dans les mobilisations pour l'essentiel. Hein. Il n'y a aucune raison que les concepts que nous abordons ici soient des concepts hors sol, ce sont des concepts qui ont été... une réalité effective sur le terrain des lus, sur le terrain des vécus, sur la peau des racisés. Mais on peut quand même constater la chose suivante, c'est quand même assez éloquent. Il y a 23 contributeurs, contributrices. L'essentiel sont racisés d'en bas, c'est-à-dire noirs et arabes pour aller vite. Et je crois qu'il y a même une majorité de femmes par rapport aux hommes. Ce sont des personnes qui sont très investies dans le champ de l'antiracisme, soit d'un point de vue universitaire, soit d'un point de vue militant, soit des deux. Autrement dit, ils racontent pas obligatoirement des conneries. On n'est pas obligé d'être d'accord avec eux, mais en tous les cas, c'est particulièrement fouillé. Et on a voulu que ce bouquin-là fasse quand même une démonstration quasiment scientifique des racismes en France, des racismes de France plutôt que des racismes en France. Et donc, oui, on allait chercher des chiffres, on a essayé de monter des analyses, des cohérences internes, y compris même parfois, ça matche pas toujours, il y a certains textes qui sont parfois en contradiction avec d'autres textes, et pour montrer la pluralité justement des points de vue, et ça pour nous c'est heureux, c'est pas un bouquin dogmatique, c'est pas un bouquin où voilà, on prend un papier, un stylo et on prend des leçons, pas du tout, c'est assez vivant et dynamique. Par contre, ce qui est vraiment dommage, vraiment dommage, c'est que c'est un livre qui a la prétention quand même de couvrir assez large, voilà. On n'a pas tout Évidemment, par exemple, on aurait pu bosser sur la question des prisons, on aurait pu bosser sur la question des hôpitaux psychiatriques. Mais je crois qu'il fait à peu près 380 pages dans ces eaux-là. Ça fait déjà beaucoup. Voilà, donc il y aura peut-être un tome 2, on verra, on y réfléchit. Mais il est sûr que ce livre-là, malgré tout, il a cette prétention de toucher un peu à tout avec des personnes qui sont directement concernées, comme on vient de le dire. Et donc, de ce point de vue-là, il aurait toutes les raisons d'avoir sans doute plus de presse. Maintenant, évidemment, la presse est ce qu'elle est, les conditions sanitaires sont ce qu'elles sont. Mais nous, c'est pas grave, c'est un bouquin qu'on met sous le bras et on se déplace de ville en ville, de librairie en librairie pour le défendre. Et on le défend en plus à 23. Donc ça, c'est la bonne nouvelle.
On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien.
Qu'est-ce qui vous a poussé pour aller plus sur vos trajectoires, que ce soit dans vos trajectoires personnelles ou professionnelles, en tant qu'enseignant à l'université ou enseignant au lycée, à vouloir faire ce livre, à décrypter les racismes de France dans leur pluralité? Qu'est-ce qui vous amène à faire ça tout au long de votre parcours?
En ce qui me concerne, c'est pas parce que je suis prof dans un lycée, même si évidemment... Tout est lié. Il se trouve que moi, je milite beaucoup sur les questions de violence policière, en particulier depuis longtemps, contre l'islamophobie, etc. Et donc, sur le terrain des luttes depuis un paquet de temps, dans les quartiers populaires d'Argenteuil en particulier. Mais ce qui s'est passé, c'est que Olivier et moi intervenions tous les deux à Grenoble dans un cadre militant. Je crois que c'était organisé par Ralph Ron, il y a quelques années de ça. C'est une grosse structure qui travaille aussi avec le MRAP local, etc. Et ils nous avaient invités tous les deux pour parler de racisme, racisme institutionnel et autres. Et en sortant de cette rencontre, on s'est dit dans le train, on venait sur Paris, il y a quand même un problème parce que même dans le milieu de l'antiracisme, même quand on s'adresse à des gens, pas simplement qui sont bienveillants et bien intentionnés, des vrais militants parfois, eh bien le concept de blanchité par exemple, de privilège, de racisme d'État, racisme institutionnel, tout ça n'est pas obligatoirement très simple comme approche parce que ce sont quand même des concepts sociologiques, pas toujours faciles d'usage. Même si quand tu te fais contrôler par un flic, tu sais ce que ça veut dire que d'être contrôlé pour ta couleur de peau, ça, il n'y a aucun problème. Pour autant, la notion de privilège blanc, par exemple, n'est pas simple d'accès. Et donc, on s'est dit, voilà, pourquoi ne pas écrire un bouquin, voilà, c'est dans un TGV que ça s'est joué, hein, voilà. Et puis après, on est allé chercher les contributeurs et contributrices parce qu'il n'y a aucune raison qu'Olivier et moi ayant la prétention de couvrir l'ensemble du spectre, et d'autant qu'il y en a qui font très bien, qui travaillent beaucoup sur certaines questions en particulier. Et donc, on allait chercher ces différentes personnes, on s'est mis d'accord là-dessus, et on a échangé avec ces personnes-là. Et le film, c'est le scénario, en gros, qui s'est produit, et le livre est né de ce scénario à deux et après à 23.
Alors, en ce qui me concerne, c'est... des considérations liées effectivement aussi pour partie à un passé et à un présent militant sur ces questions et un double constat, le constat de l'aggravation de la situation politique en France, la banalisation remarquable de l'islamophobie, tant et si bien qu'on est passé d'une situation où certaines et certains revendiquaient le droit de l'être islamophobe à une situation où désormais il faut être islamophobe. Parce que être islamophobe, c'est signifier son attachement prétendu à la République, à ses valeurs, à l'égalité homme-femme, selon la rhétorique perverse mise en œuvre par celles et ceux qui ont recours à cette catégorie. À quoi s'ajoute, et la chose est antérieure, ou en tout cas parfois concomitante, pardon, une romanophobie de nouveau élitaire, politique, débouchant sur des politiques publiques, une extraordinaire violence à l'endroit des Roms, et je pense en particulier, bien sûr, aux déclarations de Manuel Valls, qui, en tant qu'il était en responsabilité, comme on dit, ne se contentait pas de déclarer, mais justifier par ses déclarations même des politiques d'une brutalité à la fois policière, physique, sociale, symbolique, personnelle, terrible à l'endroit des Roms. Et puis, bien sûr, si je veux dire, l'arabophobie, j'allais dire presque traditionnel, pareillement pour la négrophobie, et une petite musique qui s'est sinistre elle aussi, qui a pris de l'ampleur, le racisme anti-asiatique, qui a prospéré dans le cadre de la crise sanitaire et à l'échelle internationale, avec des répercussions en France. Je pense en particulier aux déclarations de l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, et qui a eu des conséquences. La contributrice à l'ouvrage qui s'appelle Yaran Huang rapporte dans sa contribution que effectivement ceux qui sont perçus comme asiatiques ou chinois font l'objet de discrimination, de contrôle aux faciès également, d'insultes, et donc là aussi sont en but à ce racisme. À cette situation politique s'ajoute ceci que, et Omar l'a déjà évoqué, l'extraordinaire division des gauches politiques, syndicales et associatives sur ces questions, des divisions qui ont des conséquences politiques, bien sûr, du point de vue des mobilisations, parce que ça les affaiblit. Et donc, il s'agissait, par cet ouvrage, de tenter de répondre à un certain nombre de nos détracteurs, des adversaires parfois, des ennemis d'autres.
Il y a un chapitre aussi qui m'a particulièrement intéressée juste avant la conclusion, qui s'appelle « Compter pour combattre ». Je trouvais que c'était un point intéressant à aborder aussi sur ces questions-là. Pourquoi c'est important de traiter de cette question et pourquoi c'est encore tabou aussi, en France particulièrement, de se dire qu'il va y avoir des statistiques, qu'il va y avoir des chiffres qui vont appuyer ces questions-là.
Ça fait partie de la stratégie du racisme institutionnel qui consiste… Alors, c'est bien ce chapitre-là, donc c'est celui écrit par Patrick Simon, qui travaille à l'INED, qui est à l'origine des enquêtes de territoire et origine. Bon, les rares enquêtes où la question de l'origine est abordée pour parler des discriminations dans l'ensemble des domaines de la vie, du logement, au monde du travail et dans l'école, etc. Alors, il fallait absolument qu'il y ait un chapitre là-dessus parce que la stratégie de ceux et celles qui, évidemment, sont au pouvoir, c'est de tout faire pour que ce soit totalement invisibilisé, totalement silencié, tout ce qui relève de l'objectivisation des racismes institutionnels en tant que tels. Et donc l'idée, c'est de casser les thermomètres. Et parce qu'on veut casser les alors une façon de casser les thermomètres, par exemple, c'est la dissolution du CCIF. CCIF donnait régulièrement des chiffres sur l'islamophobie en France. On dissout le CCIF, on casse le thermomètre. La laïcité, qui était largement, franchement, comment dire. Il y avait quelques garants, quelques jalons qui étaient posés par l'Observatoire de la laïcité qui permettaient de voir quand est-ce qu'on avait franchi un pas en dehors d'un cadre laïque, etc. Cet Observatoire de la laïcité eh bien, vient d'être encore une fois dissous, par exemple ce week-end-là, par le même gouvernement. C'est-à-dire qu'en fait, on a à chaque fois tout ce qui peut garantir nos libertés publiques et la question d'égalité. Et à chaque fois, ces structures-là sont mises à mal, elles sont totalement démantelées. Et en l'occurrence, alors là, c'est vieux depuis plusieurs dizaines d'années. C'est-à-dire que c'est pas nouveau. Des sociologues et des militants demandent qu'on puisse mesurer les discriminations. Eh bien, ça aussi, ça nous est totalement interdit. C'est totalement interdit, et c'est pour ça que Patrick Simon fait un chapitre là-dessus, en montrant bien la difficulté que ça peut être, en même temps, d'avoir des enquêtes basées sur les origines, hein, qu'elles soient auto-désignées, c'est-à-dire par les personnes qui subissent les discriminations, ou hétéro-désigné, c'est-à-dire par les autres. Il y a différentes façons de faire. En Angleterre, les deux méthodes existent, par exemple. Eh bien, en France, c'est interdit. Et c'est interdit, ça permet, du coup, ça permet l'accentuation des politiques discriminatoires. Je rappelle juste que concernant les inégalités hommes-femmes, qui sont elles aussi structurelles, eh bien, toujours est-il qu'il y a un ensemble de mesures, y compris une législation qui avance dans le bon sens, même si elle avance trop lentement, pour faire en sorte de l'égalité au moins un point de mire, un horizon à atteindre, homme-femme, j'entends. Eh bien, ces inégalités homme-femme sur les salaires, par exemple, sur les revenus, eh bien, on est incapable aujourd'hui de les établir objectivement, ou très difficilement du moins, dès lors qu'on est incapable de compter. Alors, pour pouvoir lutter contre les discriminations raciales, il faut pouvoir compter, et c'était l'objet, et c'est l'objet de ce chapitre-là.
Juste compléter là aussi pour souligner l'exception française, mais pas celle qui nous est servie par les adorateurs du culte national-républicain, qui glose sans cesse sur les beautés de l'exception française et ce qu'elle a de supposément admirable. Et là, c'est exactement l'inverse, parce que, une fois encore, les statistiques dites ethniques existent aux États-Unis depuis fort longtemps. Elles ont permis effectivement de quantifier très précisément la façon dont les Afro-Américains ou Afro-Étatsuniens pouvaient et étaient effectivement discriminées, pareillement d'ailleurs pour d'autres populations, et je pense notamment aux migrants, mais aussi aux populations dites autochtones des États-Unis. C'est le cas au Canada, en Grande-Bretagne, et je pense également en Australie, en Nouvelle-Zélande, et en France, là aussi, là encore. Comme pour certaines catégories, je pense à la question de l'intersectionnalité. La France, comme le disait aussi, le faisait remarquer Maboula Soumaoro, qui a enseigné aux États-Unis, sur ces chapitres-là, la France a entre 20 et 30 ans de retard. Et Omar Slaouti avait raison de rappeler que la question des enquêtes sur la discrimination liée au genre aujourd'hui ne font non seulement absolument plus de problème, mais sont considérées comme normales, et non seulement normales, mais comme un outil absolument essentiel de lutte contre ces discriminations. Dès qu'on passe et qu'on cherche à faire entendre que le même type d'enquête devrait avoir lieu pour les discriminations liées à l'origine, les réactions sont très violentes, on est accusé de racisme, de communautarisme, voire de séparatisme.
Alors tout ça nous emmène tout doucement vers la fin de cette émission avec la question rituelle que je vais vous poser à présent à chacun de vous, Olivier Lecourt-Grandmaison et Omar Slaouti. Pourquoi criez-vous aujourd'hui? Pourquoi continuez-vous de crier?
Crier parce que la situation me paraît chaque jour, pour ne pas dire chaque semaine et chaque mois, plus grave. Plus grave sur le plan économique et social, plus grave sur le plan financier, plus grave du point de vue du racisme, de l'islamophobie, plus grave du point de vue de la répression des mouvements sociaux et de la répression de celles et ceux qui, premiers concernés, cherchent à se lever et s'organisent, se battent, effectivement, pour lutter contre les violences policières et les discriminations systémiques qu'ils subissent en tant qu'ils sont racisés. Et dans ce contexte-là, il me semble, eu égard à cette violence politique, cette violence policière, cette violence sociale et symbolique, qu'il est évidemment nécessaire, pour ne pas dire indispensable, de crier, et pas simplement de crier individuellement, mais aussi évidemment de crier collectivement, parce que je n'ai pas la faiblesse de croire qu'un cri individuel sera suffisamment fort pour changer si peu que ce soit la situation, et que si la situation peut changer, c'est parce qu'il y aura de très nombreux cris collectifs.
Oui, c'est bien ce que dit Olivier. C'est bien parce que le cri, en vérité, indépendamment de ce qui peut faire ressentir d'un point de vue personnel, des trajectoires individuelles, et c'est vrai que ça existe, on ne nie pas ça, c'est toujours à partir de soi qu'on part, du départ, dans le cadre des mobilisations, etc., du militantisme et tout, il y a toujours des histoires singulières, des histoires de souffrance. Mais là où ça devient particulièrement dangereux pour les pouvoirs en place, c'est lorsque les souffrances sont politisées et collectivisées. C'est lorsque les cris résonnent les uns avec les autres. C'est lorsque les cris, justement, font écho les uns aux autres. Et dans ce livre-là, Racisme de France, la bonne nouvelle, c'est que il y a plusieurs personnes qui ont écrit, sur le racisme institutionnel, racisme d'État, le racisme dans la police et dans la justice, le racisme contre les étrangers, le racisme dans le domaine de la santé, le racisme dans l'école, le racisme dans le monde du travail, le racisme dans la presse, le racisme y compris parce qu'on est noir, le racisme y compris parce qu'on est musulman ou musulmane, le racisme parce qu'on est tzigane, le racisme parce qu'on est asiatique, le racisme parce qu'on est justement juif et que évidemment il y en a quelques-uns qui font beau jeu de renverser la lutte antisioniste comme de l'antisémitisme. Évidemment, c'est ce que Dominique Vidal s'amuse à démontrer et à décortiquer. Et puis, dans tous ces cris-là, il y a aussi nos résistances, ces cris de résistance, cette idée que, par exemple, dans l'intersectionnalité, il y a du nous. Dans nos paroles, qu'elles soient noires ou pas, il y a du nous. Qu'on peut aussi résister par nos plumes, par nos voix. C'est ce que font Karim Amou et Kauter Archi dans ce livre-là. Que être sportif, faire du sport, c'est aussi une façon de résister. Et Hakim Wallassi, qui est quelqu'un qui bosse au CNRS et qui s'intéresse au sport et au sport, notamment la place des racisés aux États-Unis et en France, écrit dans ce bouquin-là aussi. Et puis comprendre en même temps que les féminismes, ça se conjugue aussi au pluriel, qu'il n'y a pas un féminisme blanc, un féminisme universaliste. Non, il y a des féminismes décoloniaux et antiracistes. Et Françoise Vergès, eh bien, se donne à cœur joie de nous expliquer dans ce bouquin en quoi les féminismes qui viennent du sud global ont toute leur place dans les luttes. Et puis on rappelle que la laïcité, c'est la nôtre, avec Philippe Marrière. On rappelle enfin grâce à Magali Besson, que la reconnaissance, la réparation et la restitution sont fondamentales et ça passe aujourd'hui, ne serait-ce que par une dignité retrouvée pour ceux et celles qui vivent aujourd'hui, par exemple en France, dans la métropole, mais aussi dans ce qu'on appelle les Outre-mer, qui sont rien d'autre finalement que des colonies. Patrick Simon nous rappelle qu'il faut crier, pour crier c'est bien de compter parce que ça aide à combattre. Et enfin, Olivier et moi, on conclut ce livre-là, Racisme de France, avec une formulation que tout le monde connaît, la prochaine fois, le feu, parce que c'est ça qui est à l'ordre du jour. Quand on crie, eh bien, on fait rien d'autre que cracher un certain nombre de flammes, c'est-à-dire que concrètement, ce qu'on dit, c'est que dans nos quartiers, à Marseille ou ailleurs, ça brûle, mais il n'y a pas de flammes, il n'y a même pas de fumée, ça brûle intérieurement, ça brûle dans nos corps, ça brûle dans nos esprits, ça brûle dans nos nuits, ça brûle dans nos chairs, ça brûle parce qu'en famille, on n'arrive pas à trouver un horizon serein, ça brûle parce qu'on est pétri d'inégalités qui se croisent et s'entrecroisent sans cesse à n'en plus finir, eh bien, on dit qu'un jour, il y a le feu. Un jour, il y a des quartiers qui tombent. Il y a des quartiers qui décident de mettre de la lumière là où il n'y en a pas. Et parfois, ça passe par des flammes. Parce que dans les flammes, évidemment, il y a toute la symbolique de la destruction, mais il y a aussi la lumière sur ce qu'on ne voit pas. Eh bien, cette prochaine fois, le feu, c'est sans aucun doute toutes les révoltes dans les quartiers populaires qu'il va y avoir d'ici très peu de temps. Non pas parce qu'on le souhaite, parce qu'on l'a écrit, mais parce que mécaniquement, des gens dans les quartiers n'en peuvent plus parce que arabes, noirs, roms, cigales, musulmans, musulmanes, et parce que simplement aussi français et tout simplement discriminés socialement, ségrégés socialement, n'en peuvent plus et ils exprimeront sans doute quelque chose d'ordre politique. Ce sont tous ces cris-là qu'évidemment on ne peut pas contenir, qu'il ne faut pas contenir, mais qu'il faut entendre pour pouvoir changer de société.
C'est un cri effectivement collectif et pluriel qu'on entend dans vos voix et puis qu'on peut retrouver dans cet ouvrage Racisme de France au pluriel aux éditions La Découverte. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans ce nouveau podcast d'Approche Culture et Territoire. On vous retrouvera avec plaisir pour d'autres sujets à l'occasion et merci pour cette contribution.
Merci Colline, merci à Act et à Soraya et à toute l'équipe.
Absolument. Je partage le remerciement.
On arrive à Marseille bientôt. Salut.
C'était Pourquoi tu cries, un podcast d'Approche Culture et Territoire, réalisation Colline Charbonnier.